Vous êtes à l'écoute de Radio Agora.
Bonjour, Flora Tristan, l'indigné, émission radio en public à l'Agora, fabrique des futurs. Merci à toute son équipe de nous accueillir dans ses locaux pour ce troisième épisode. Radio Agora donne la parole aux habitants et aux acteurs locaux. Flora Tristan, l'indigné, épisode 3, l'union ouvrière. Merci et bonjour à Adèle et Brigitte d'être présentes pour ce troisième rendez-vous. Je précise aux auditeurs qu'ils peuvent emprunter à la médiathèque Flora Tristan, médiathèque qui se trouve aux deux rues des anciennes mairies, la biographie de Brigitte Krulik, ainsi que le livre que nous avons évoqué lors des premiers épisodes, Les promenades dans Londres et L'émancipation de la femme ou le testament de la paria, écrit par Flora Tristan. Adèle, c'est à toi.
L'opinion va enfin comprendre que guillotiner et chasser les rois n'a servi à rien. Les révolutions politiques ne sont que de sinistres farces. Voilà, c'est Flora Tristan qui parle. Et pour elle, la grande et célèbre révolution française n'aura servi qu'à donner aux bourgeois la place des aristocrates. Et elle dira de l'Union ouvrière, son œuvre finale, qu'elle accomplit l'œuvre inachevée de la révolution. Quels sont les grands principes de l'Union ouvrière? Justement, comment elle va répondre à cet individualisme exacerbé dont on parlait au troisième épisode? Et comment va-t-elle s'organiser pour les défendre? Grosse question.
C'est une énorme question, effectivement, mais absolument centrale. Alors, on avait dit lors du premier épisode que Flora Tristan, c'est une fille de la Révolution française, hein, pour plein de raisons. D'abord pour des raisons chronologiques, mais aussi pour des raisons de fond. Donc, on pourrait presque dire la Révolution, c'est la toile de fond qui, d'ailleurs, pour toute sa génération et même les générations qui vont suivre, c'est comment se positionner par rapport à l'héritage de la Révolution française. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de je ne dirais pas de désillusion, mais elle considère que la Révolution française, ce sera d'ailleurs un de ses points de convergence avec Marx, hein, même si ce ne sont pas concertés, mais bon, ils cheminent intellectuellement et politiquement en parallèle, on peut peut-être le dire comme ça. La Révolution française, pour Flora, c'est quelque chose d'éminemment positif. Elle considère que la Révolution française, elle a accompli quelque part le miracle de proclamer le principe d'égalité. Alors, vous noterez que pour elle, elle parle moins de liberté, mais elle parle surtout d'égalité et de fraternité, parce que pour elle, ce sont deux termes qui sont indissociables. Donc, la Révolution française, c'est incontestablement une grande et belle chose, mais la Révolution française est restée en chemin. Elle n'a pas été jusqu'au bout de son œuvre. Et pour deux raisons fondamentales. La première, on en a déjà dit un mot, c'est qu'elle n'a émancipé que l'homme abstrait. Elle n'a pas tenu compte donc des conditions de vie, des conditions de travail. Et puis la deuxième, très importante, et qui pour elle est indissolublement liée, elle n'a émancipé que les hommes, comme elle dit, elle a émancipé la partie masculine de l'être humain, c'est son expression. Or, l'être humain est composé d'hommes et de femmes.
Oui, alors, justement, ça c'est un des grands principes. Pourquoi la lutte du droit des femmes et la lutte du droit des ouvriers sont indissociables pour elle?
Alors, elle a une très belle, je vais essayer de répondre rapidement à cette question, c'est pas très facile, elle a une très belle formule que j'aime beaucoup. Elle dit, on ne pourra pas faire sonner le 89 des ouvriers, donc vous voyez qu'il y a quand même toujours cette référence à la Révolution française, on ne pourra pas faire sonner le 89 des ouvriers tant qu'on n'aura pas fait sonner le 89 des femmes. Donc pour elle, c'est lié. Il n'y aura pas d'émancipation des hommes s'il n'y a pas l'émancipation des femmes. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue que l'être humain est indissociablement homme et femme. Alors, on pourrait, hein, si on avait le temps, ça peut être aussi des aspects peut-être un peu plus ésotériques de la pensée de Flora Tristan, elle considère, alors, c'est une pensée qui aussi s'enracine dans un héritage chrétien, mais un héritage chrétien, mais qui est laïcisé. Hein. Je précise, c'est une anticléricale, elle déteste l'Église catholique, d'ailleurs toutes les églises, plus ou moins, mais bon, elle puise quand même même dans un fond, donc, l'idéal de fraternité. Et pour elle, la fraternité, c'est la réponse à l'individualisme. Là où l'individualisme fait de chacun une sorte de bulle autonome, égoïste, disons-le, qui ne pense qu'à ses propres intérêts, et donc, du coup, dissout la société, renvoie chacun à sa misère et à ses problèmes, la fraternité, qui repose sur l'égalité, parce que si l'autre est mon frère ou ma sœur, c'est parce qu'il est mon égal, enfin les deux vont ensemble, et c'est précisément parce que l'autre est mon égal et mon semblable que son sort ne peut pas m'être indifférent. Alors ça, l'égalité et la fraternité, ça fonde ce qu'elle appelle l'idéal de l'union. Et l'union, là aussi, c'est la meilleure réponse à l'individualisme. Tout seul, on n'est rien. L'union fait la force. Alors bon, c'est un proverbe, hein, c'est évidemment pas elle qui l'a inventé. Et puis d'ailleurs, des milieux ouvriers de l'époque l'utilisaient. Enfin, c'est un proverbe qu'on retrouve souvent dans la presse ouvrière de l'époque, chez les penseurs là, qui gravitent dans les milieux socialistes. Mais elle lui donne vraiment toute sa pleine signification. Donc l'union, c'est la force. Et donc, c'est une manière de répondre donc à cette dissolution du lien social que la Révolution, c'est difficile de dire en le voulant ou sans le vouloir, enfin c'est compliqué, mais que la Révolution, de fait, a promu.
Et du coup, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Comment elle s'organise pour faire la promotion de cette idée? D'ailleurs, vous parlez, dans le bouquin, vous dites « idée sauveur ».
Oui, c'est son terme.
C'est ça. C'est l'union, en fait, c'est ça qui est son idée sauveur.
Voilà, alors elle a un vocabulaire, je l'ai déjà dit, qui est emprunt effectivement de... elle puise chez les socialistes, elle puise dans l'héritage chrétien, mais un christianisme qui est le christianisme qu'on dirait de gauche, entre guillemets, de l'époque, qu'on a employé la formule du Christ des barricades, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et on se réfère, c'est une expression de la Révolution française d'ailleurs, le sans-culotte Jésus. Je crois que ça a le mérite de bien résumer cette manière de comprendre la Révolution, l'idéal d'égalité, de fraternité, en fait, comme un accomplissement du christianisme. Bon, Flora est quelqu'un qui croit, voilà, ça je voulais le dire, c'est aussi lié à son, ce qu'on pourrait appeler son féminisme, le terme n'existe pas, mais bon, l'idée est là. Elle considère que Dieu, elle écrit Dieu, parce qu'elle se réfère, elle dit que son message, il s'ancre dans l'existence d'une providence, d'une transcendance, mais qu'elle écrit Dieu avec un X. Alors un jour, il y a un de ses interlocuteurs qui lui dit « Votre éditeur a fait une faute de frappe, il écrit Dieu avec un X, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et elle, non, pas du tout, c'est évidemment pas une faute de frappe, c'est qu'elle considère que Dieu est indissociablement... un être qui n'est pas marqué au sceau du masculin, que Dieu est une entité qui englobe donc l'homme, la femme et l'enfant, et que l'humanité donc se compose de cette trinité. Alors c'est vrai que ça a dérouté à l'époque. Alors je reviens donc, mais enfin tout ça est lié. Alors ces voyages lui ont permis, c'est le lien avec la précédente émission, lui ont permis de faire le constat, le diagnostic. Donc un diagnostic très négatif, très sombre, qui ne va faire que s'aggraver, tout le monde a compris. Alors elle, l'idée sauveur, là encore c'est un terme très, 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 très religieux, l'idée sauveur qu'elle va opposer à cette situation catastrophique, c'est l'union, c'est l'unité. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire que, j'ai déjà expliqué, on a déjà parlé, individualisme, union, association, etc. Ce sont des idées qui sont dans l'air. Flora Tristan, on ne peut pas dire, elle invente tout comme ça, par une espèce d'opération miraculeuse. L'idée d'association, c'est une idée qui a été développée par Saint-Simon, par Fourier, avec beaucoup de manière très, très, très construite, très solide. Elle connaît tous ses écrits, elle ne l'invente pas. Mais elle a le talent, Adèle employait le terme de confluence, de se mettre à la confluence de plusieurs mouvements et de piocher les outils, comment pourrais-je dire, pour lui permettre de formuler un message clair. L'idée, c'est de, comme elle dit, d'aller au fond des casquettes. Parce que le casquette, à l'époque, c'est le couvre-chef de l'ouvrier. On repère à 100 mètres le bourgeois qui a une haute forme et l'ouvrier qui a une casquette. Le bourgeois a une redingote, l'ouvrier porte une blouse. Donc ça, il y a aussi des choses qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Pour nous, évidemment, c'est des distinctions qui ne nous parlent plus, mais c'est important. Donc elle veut aller parler au fond des casquettes, elle veut aller parler à ceux qui ne savent pas lire ou qui n'ont pas le temps de lire. Et le message qu'elle veut leur formuler, il faut que ce soit un message simple, un message qui puisse comprendre sans avoir fait de longues études, et surtout un message qui débouche sur une action concrète. Donc pour elle, c'est l'association. C'est il faut réclamer le droit au travail, et pour réclamer le droit au travail, il faut constituer une force. Alors, c'est là que l'idée, elle est effectivement novatrice, et que avec quelques années d'avance, elle préfigure ce que Marx et Engels ont développé et ensuite vont réaliser, alors sous une forme évidemment beaucoup plus structurée, beaucoup plus puissante, dans la Première Internationale, dans les années 1860. Bon. Alors, en quoi ça consiste ? L'idée novatrice, c'est de dire qu'il existe une communauté d'intérêts et de destin pour la classe ouvrière indépendamment des particularismes. Parce que là encore, c'est quelque chose qu'on a du mal, nous, à imaginer. À l'époque, la classe ouvrière, elle n'existe pas enfin, comme structure. C'est-à-dire qu'il y a des rivalités extrêmement fortes dans les compagnons du Tour de France, par exemple, dans les associations ouvrières qui sont, je répète, persécutés par la police, qui sont obligés de biaiser, de feindre, d'être totalement inoffensifs, de n'avoir aucune idée subversive pour pas se faire immédiatement interdire. Donc les conditions sont très compliquées et surtout, ce qui est important pour elle, elle dit que la classe ouvrière, elle existe comme une entité indépendamment des clivages de métiers, peu importe qu'on soit serrurier, maçon, etc., etc., et peu importe qu'on soit breton, berrichon, provençal, etc. Alors, des idées qui nous peuvent nous paraître, oui, qui se conçoivent facilement, mais qui à l'époque, non, c'est pas évident, c'est tout sauf évident. C'est même, ça pose même des problèmes. Il y a, par exemple, un maçon creusois qui débarque à Paris dans les années 1840. Il est perçu comme un sale étranger et on va lui faire sa fête à l'occasion parce que il est pas d'ici, il a pas le même accent, il est maçon alors que bon, les autres sont d'un autre corps de métier. Donc ça, Flora dit que ça c'est absolument désastreux. Ça c'est exactement ce contre quoi il faut lutter.
C'est, donc, pardon de vous interrompre, Brigitte, c'est cette réalité tellement présente qui fait que des critiques, semble-t-il, ont été pas mal évoquées sur cette lutte ouvrière, cette notion d'union ouvrière.
Alors, elle est critiquée, en même temps, elle est appuyée. C'est un peu compliqué. Donc, on a dit que c'est quelqu'un de pragmatique, donc elle écrit son petit bouquin. Elle le publie grâce à une souscription. Et là, on voit que, d'ailleurs, le tout Paris progressiste va souscrire. Par exemple, Georges Sand, qui n'aime pas du tout Flora Tristan, mais elle va quand même donner une belle contribution pour permettre donc l'impression de la petite brochure. Et alors, donc, il y a l'impression du livre, et Flora va avoir l'idée qui est génial, hein, qui est copié de, aussi inspiré de les compagnons du Tour de France, hein, qui font le tour de la France au sens concret du terme. Elle va aller porter sa brochure de ville en ville en faisant le tour de France, là encore, toute seule. Elle prend la diligence, elle prend la péniche, elle prend le premier train entre, si je me souviens bien, c'est Saint-Étienne et Roanne, dans des conditions là aussi aventureuses. Elle va partir toute seule avec sa caisse de bouquins et elle va organiser des réunions. Alors c'est très compliqué. Et c'est là qu'elle a besoin des ouvriers. Alors, les compagnons du Tour de France, ce qu'on appelle les unionistes à l'époque.
C'est tout son réseau, en fait, le réseau
voilà,
de contact.
Voilà, elle va mobiliser très intelligemment son réseau pour qu'on l'aide à organiser les réunions. Parce que bon, tout le monde peut imaginer qu'une dame qui débarque avec une caisse de livres et qui arrive comme ça, la police la regarde d'un mauvais œil, elle va se présenter à l'évêque, au préfet, elle explique qu'elle ne vient pas faire la révolution, mais qu'elle vient porter un projet qui est bon pour tout le monde, d'abord pour les bourgeois, que tout le monde a intérêt à appliquer ses idées. Enfin bon, elle essaye un peu de ne pas mettre le feu aux poudres trop tôt.
Bon, elle se fait quand même perquisitionner.
Voilà. Le gouvernement, évidemment, n'est pas totalement dupe. Donc,
Dans
le meilleur des cas, on la renvoie balader. Hein, il faut bien le dire, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, effectivement, la police perquisitionne, on l'espionne, on lui confisque ses papiers. Alors, elle ne se démonte pas, elle écrit aux journalistes à Paris, elle proteste. Enfin bon, c'est l'idée qui me vient à l'esprit. Elle ne veut pas se voir victime. Elle pourrait, parce que franchement, elle aurait des raisons de se voir en victime. Mais non, justement, elle n'est pas une victime. Elle rend coup pour coup. Donc, elle va aller prêcher, encore c'est son terme, l'union ouvrière, en expliquant que seuls les ouvriers désunis ne sont rien, mais que, on peut supposer qu'elle est lu sieyès, qu'est-ce que le tiers-état, mais que lorsqu'ils constituent une force de plusieurs millions, ils sont quelque chose. Et plus que quelque chose, ils sont les forces vives de la nation. Alors, elle reprend la formule de Saint-Simon, qui parlait de la classe ouvrière comme la classe la plus pauvre et la plus nombreuse. Elle la reprend, et la classe la plus pauvre est la plus utile. Parce que quelque part, c'est eux qui font vivre le pays. Et donc, c'est eux qui ont la mission d'emporter... Elle essaye de ne pas non plus se montrer, de ne pas exclure les bourgeois. Elle dit que si on peut avoir l'appui des bourgeois, et même du gouvernement, et même du roi, et ben encore mieux, parce que comme ça, on aura plus d'argent, et puis on pourra être encore plus efficace. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question d'Adèle.
Mais elle refuse qu'un bourgeois prenne le lead, peut-être des constellations ou des sortes d'unions qui peuvent se faire par la suite. Ouais. Parce qu'elle a un plan quand même, c'est de faire cette réunion donc pour parler de son bouquin. Mais après, elle a une idée très précise de comment s'organiser.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas seulement une idée. Alors ça, c'est le principe, hein, si vous voulez, on va dire la théorie, entre guillemets. Mais pour elle, il faut que ça débouche sur du concret. C'est-à-dire qu'elle veut... Alors ça, c'est une idée qu'elle a trouvée en Angleterre, notamment chez O'Connell. Donc l'idée, on pourrait dire, d'une espèce de lobbyisme. Donc elle a aussi une idée qui anticipe ce que seront les syndicats. Il faudrait que chaque membre de la classe ouvrière... Alors elle dit toujours les ouvriers et ouvrières. Hein. Ça, c'est très, très, très contemporain. Elle ne rate pas. Elle dit jamais les ouvriers. Et lorsqu'elle s'adresse à eux, elle précise bien. Alors, il faudrait que tous les ouvriers et ouvrières qui sont intéressés par le projet, elle espère évidemment que ce sera la quasi-totalité, si possible la totalité, payent une cotisation de 2 euros. Bon, c'est une somme qui est relativement modique, mais ce n'est pas négligeable compte tenu des budgets de l'époque. À titre d'exemple, un ouvrier pas qualifié, il gagne à peu près 200 euros par an. Bon, donc 2 euros, c'est pas une grosse somme, mais bon, ça va entre 200 et 400 selon la qualification, mais 2 euros, c'est quand même pas rien. Mais elle dit qu'avec ces 2 euros, si les millions de prolétaires, hommes et femmes, qui composent donc la classe ouvrière, donnent 2 euros, alors elle calcule, ça fait 14 millions, si je me souviens bien, avec 14 millions, on fait plein de choses. Ça, c'est le côté un peu mon socialisme utopique, hein. On va créer des palais de l'union ouvrière avec des maisons de retraite, des hôpitaux, des écoles, il y aura un système de ce qu'on pourra appeler d'assurance du travail, assurance chômage. Bon, il y a toute cette structure qu'elle imagine, elle appelle ça le palais, hein, parce qu'elle dit qu'il faut que ce soit beau. Hein. Il ne faut pas faire des espèces de casernes minables, il faut quelque chose de vraiment beau. Et l'autre idée, c'est qu'avec ce trésor de guerre, alors elle imagine aussi une structure qui est en fait assez centralisée, hein, là aussi c'est un terme qui est anachronique, mais avec des comités locaux, des comités à l'échelle de la région, ensuite comité national, où il y aura des femmes, certes deux tiers, un tiers, hein, bon... Pas tout à fait la parité, mais enfin, c'est quand même déjà tout à fait intéressant. Et donc, cette union ouvrière, elle va promouvoir au Parlement, au gouvernement, auprès des patrons, partout, la question des conditions de travail, du chômage, de tout ce qu'on appellerait... Bon, j'emploie une expression qui est franchement anachronique dans le contexte de Flora Tristan, mais ce qu'on appellera, nous, les droits sociaux de la deuxième génération. Et là, vous voyez que, le suffrage universel, pour elle, ça viendra, mais ce n'est pas la priorité.
Justement, on aurait une question du public.
On a deux questions.
Deux questions.
Exactement.
Oui, je voulais savoir si, au niveau du travail des enfants, si elle s'y intéresse vivement ou si elle considère que les enfants font partie du monde des ouvriers. Et puis une autre question, justement, avec cette utopie comme ça, est-ce que c'est elle qui est à l'origine des phalanstères ou alors c'est parce qu'elle reprend des idées des autres comme Charles Fourier ou Thomas Mann ou Saint-Simon, par exemple, aussi?
Oui, alors je réponds tout de suite à cette question, merci de l'avoir posée. Alors sur le travail des enfants, oui, bien sûr, elle l'a vu à Londres, évidemment, hein, mais lorsqu'elle prépare le Tour de France, elle fait un travail, là encore, d'enquêtrice sociale absolument extraordinaire. D'abord, elle lit absolument tout ce qui se publie à l'époque, à la fois de théoriques, les travaux de Louis Blanc, par exemple, ou de Cabet. Elle lit aussi les enquêtes, c'est à la mode à l'époque, hein, Villermé, enfin les conditions de travail, les enquêtes sur la prostitution. Enfin, elle fait vraiment un travail travail de documentation qui est très très important. Et puis elle interroge tous ces ouvriers qu'elle connaît, ce grand réseau d'ouvriers qu'elle a constitué. Alors elle leur demande, elle s'intéresse, le prix du pain, le budget, les horaires de travail, le salaire, etc., etc., le prix du logement. Enfin bon, il y a vraiment un travail. Et puis quand ils répondent pas assez vite, elle les relance. Hein. Il ne faut pas laisser attendre Flora Tristan et encore moins ne pas lui répondre, parce que là, elle se fâche. Alors, pour les enfants, effectivement, je peux résumer très simplement. C'est un fait qui est documenté à l'époque, que par exemple, Louis Blanc explique très bien dans son livre L'organisation du travail. Elle n'est pas seule dans son époque. Hein. Il ne faudrait pas que je vous donne l'impression que c'est une espèce d'ovni complètement... Non, elle se nourrit d'un terreau, hein, d'une époque. Alors, il explique, à propos de la concurrence, il dit, un ouvrier, il est payé telle somme. Une femme, pour le même travail, moitié. Un enfant, enfin pas le même travail, mais pour un travail dans la même structure, c'est la moitié de la femme. Et il explique très bien, il y a un texte formidable de Louis Blanc sur le principe de la concurrence, il dit que le drame donc, du système tel qu'il est, c'est justement de mettre en concurrence les travailleurs entre eux. Pourquoi embaucher un homme si je peux embaucher une femme qui va me coûter deux fois moins cher? Pourquoi embaucher un homme si je peux embaucher une ribambelle d'enfants qui vont pour le même salaire et qui finalement vont faire un travail, peut-être plus de travail? Donc c'est le principe de la mise en concurrence des ouvriers. Et donc là, le cas des enfants est clairement posé, puisque c'était effectivement la règle, hein, la femme la moitié et l'enfant la moitié de la femme. Donc elle pose vraiment le problème, et là, évidemment, la réponse, c'est l'union. Pour résister à la concurrence, ça tombe sous le sens qu'il faut être plusieurs. Alors, l'autre question, bien sûr, hein, on pense, alors elle n'emploie pas le terme de phalanstère, mais évidemment...
Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est un phalanstère, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas.
Voilà, alors le phalanstère, c'est Fourier, mais Saint-Simon avait aussi ouvert la voie avec son fameux couvent de Ménilmontant, couvent laïque, je précise, dont on s'est d'ailleurs beaucoup moqué, hein, je veux dire, on s'est beaucoup moqué de ces socialistes utopiques. Alors, il y avait l'idée que effectivement, bon, justement, pour surmonter l'individualisme, il fallait envisager donc une manière de vivre et de travailler, parce que ce sont des structures de vie, mais aussi de travail, collectives, avec des bibliothèques, des théâtres, des écoles, mais avec l'idée de l'interdépendance. Et là encore, vous voyez toujours cette idée obsédante, la révolution a brisé le lien social, comment pouvons-nous le reconstituer ? Le phalanstère, c'est une réponse à ça. Alors bien sûr qu'elle a connu, c'est une sorte de phalanstère, mais le palais de l'Union ouvrière, on n'y vit pas vraiment. On y travaille et on y vit quand on est âgé, infirme, voilà.
Il y avait une question encore du public.
Bonjour, quel va être le positionnement de Flora par rapport au CANU, et notamment par rapport aux deux insurrections donc de 1831 et 1834, où là justement les ouvriers s'unissent, les ouvriers de la soie de Lyon s'unissent contre leur patron, contre les donneurs d'ordre, y compris il y a tout un milieu là justement militant, associatif, qui se fédère autour d'eux, qui publie d'ailleurs même y compris des journaux, et donc comment elles se positionnent par rapport à tout ça quoi.
On va d'abord prendre une question, une dernière, et puis ensuite on laisse répondre Brigitte avant de conclure.
Oui, dans ce que vous avez dit, j'ai bien entendu qu'elle parle des ouvriers et des ouvrières. Mais jusqu'à maintenant, j'ai plutôt l'impression d'entendre parler un homme politique très progressiste, visionnaire, qui réfléchit sur la société, sur l'avenir. En tant que femme, comment elle nourrit son féminisme ? On est quand même dans une époque où le féminisme est quand même une question qui perce, hein, dans la littérature, dans le théâtre, dans la philosophie. Donc comment elle intervient là-dedans ? Quand elle intervient en tant que femme, comment est-ce qu'elle est écoutée par ses homologues masculins ? Enfin, je me doute un peu de la réponse, mais voilà, dans ces débats politiques, là où elle intervient, comment est-ce qu'elle est écoutée ? Et comment, effectivement, elle réfléchit en tant que femme sur cette question-là, qui nourrit quand même, hein, je pense, l'avant-garde et pas que. Même la bourgeoisie, d'ailleurs, hein, avec, par exemple, l'époque du libertinage, bon, toutes ces questions-là qui font apparaître la question spécifique des femmes. Voilà.
Alors d'abord, les canuts.
Peut-être. Alors, les canuts. Alors, oui, alors, les deux grandes insurrections là, que vous avez rappelées, tout le monde connaît la belle devise vivre en travaillant ou mourir en combattant. Bon, ça, c'est effectivement, c'est passé à la postérité à juste titre. Alors, Flora Tristan, dans son Tour de France, alors, je ne sais pas, j'anticipe peut-être un peu, enfin bon, c'est juste une petite allusion. Voilà, quand elle va faire le Tour de France, l'étape peut-être la plus importante pour elle, importante politiquement, humainement, à tout point de vue, c'est Lyon. Parce que Lyon, c'est le cœur battant des luttes ouvrières. C'est vraiment, c'est la capitale. Alors, il y a Paris, bien sûr, qui est la capitale des révolutions, évidemment, mais c'est vraiment le cœur battant. Alors, il y a aussi une chose très importante que je n'ai pas dite, je le glisse là. Les ouvriers auxquels elle s'adresse, il ne faudrait pas croire que c'est un prolétariat d'usine. Le prolétariat d'usine, à l'époque, bon, ceux qui travaillent dans les filatures, la métallurgie, enfin, c'est ça que je parle, qui commence à, effectivement à se développer très, très fort en France, avec un peu de retard pendant la Grande-Bretagne, mais quand même, ceux-là, ils sont totalement écrasés. Enfin, il faut quand même le dire, ils sont en général analphabètes, donc pas du tout politisés, ils survivent comme ils peuvent, c'est-à-dire mal, et donc c'est pas à elles qu'elles s'adressent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entendre le message de Flora Tristan. Et ils sont minoritaires dans ce qu'on appelle le prolétariat. Donc elle s'adresse à des ouvriers qui sont le plus souvent qui savent lire, qui savent écrire, qui rédigent des journaux, qui ont ce qu'on pourrait appeler une conscience politique, mais qui appartiennent plutôt à ce qu'on appellerait nous des artisans. Hein, c'est des métiers qualifiés. Ce sont des serruriers, des casquetiers, des maçons, etc. Donc ça c'est quand même important. Alors à Lyon, donc il y a deux pôles importants donc pour les luttes ouvrières. C'est Paris, bien sûr, mais Lyon, qui porte, quand elle débarque en 1844 à Lyon, elle va rencontrer, bien sûr, on a dit, des ouvriers de différentes obédiences et de différents cercles, mais bien sûr, les vétérans des insurrections de Canut. Et alors, il y a de très, très beaux passages. Alors, le journal du Tour de France, c'est un texte intime, c'est-à-dire que ce sont ses notes, c'est son journal. Alors, nous, on lit ça comme un texte littéraire, mais bon, c'est pas filtré. Elle savait pas que ça serait publié, alors... elle balance, comme on dirait, en langage trivial, elle balance des commentaires souvent très durs, enfin bon, mais il y a un côté très vivant, quoi. C'est Flora sur le vif, pas filtrée, pas censurée. Alors, elle observe les Canuts, et alors elle est effrayée par d'abord leur aspect physique, la souffrance du travail sur leur corps. Elle décrit les poitrines creuses, les teints blafards, ils sont petits, ils sont maigres, ils sont tuberculeux, enfin bon, il y a un portrait comme ça, très très dur, de même qu'elle avait fait aussi un portrait des esclaves, enfin qui étaient sans concession, c'est-à-dire ils sont abîmés, ils sont complètement détruits par leurs conditions de vie. Et elle dit, quand on les voit après le travail, c'est votre question qui me fait penser à ce passage, elle dit qu'ils se réunissent dans les cabarets de la Croix-Rouge, et là, dit-elle, quand on les voit qui, dans le silence, vident leur chope sans parler, on a du mal à imaginer que c'est eux qui dressaient, enfin qui brandissaient le drapeau de l'insurrection de Canut. Donc elle les a rencontrés, elle est allée, alors là aussi, elle monte dans les étages, elle essaye de ne pas se faire annoncer. Quand elle va dans des ateliers, d'ailleurs atelier c'est même pas vraiment le terme parce qu'on vit, on travaille dans la même pièce, hein. Donc c'est à la fois le logement, l'atelier, enfin tout ce qu'on veut. Elle essaye d'y aller comme ça à l'improviste parce qu'elle veut surtout pas qu'on lui fasse un décor de théâtre embelli, elle veut vraiment voir les conditions de travail. Alors voilà ce que je peux dire pour les Canuts. Pour elle, évidemment, les Canuts, c'est bien sûr, ce sont les héros, mais je répète, elle dit toujours, il faut pas faire d'insurrection. Il faut passer par la voie de l'association, le lobbying, l'union ouvrière, etc. Parce que sinon, l'insurrection, l'armée va faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire elle va l'écraser et on n'aura pas avancé. Alors, il y avait une autre question. Ah oui, sur les femmes. Ah,
voilà. Question s'agissant du féminisme.
C'est vraiment un très gros morceau. Là encore, bon, le terme féminisme n'existe pas à l'époque. Hein. Il apparaîtra à la fin extrême du 19e siècle. Mais bon, l'idée est dans l'air depuis Olympe de Gouges. C'est une idée minoritaire. Il faut ça, je pense que tout le monde le sait. Mais Flora Tristan, là encore, elle ne part pas de rien. Il y a d'abord Saint-Simon et Fourier ont effectivement développé des idées sur la nécessité de l'instruction pour les femmes, sur des droits pour les femmes, sur l'émancipation de la chair. Bon, ça, là, elle est beaucoup plus réservée, mais bon, il y a quand même tout un terreau qui a été développé. Il y a aussi des journaux féministes qui ont été créés dans les années 1830, et Flora en a connu les rédactrices. Donc là aussi, elle échange, elle participe à des débats, elle écrit, elle communique, elle est quand même dans un réseau. Je pense que votre question était plutôt sur l'aspect pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est perçue. Alors, je répète, elle, ce qui l'intéresse pour les femmes, c'est plus que la revendication du droit de vote, donc c'est une question qu'on peut se poser, si elle avait vécu en 1848, quand Pauline Roland, Jeanne de Roing et d'autres femmes vont même se présenter à un bureau de vote, évidemment se faire refouler, et dire à l'appariteur, s'il vous plaît, vous faites procès verbal, que vous m'avez refusé le droit de voter. Bon, position très, 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 très radicale. Bon, comment elle aurait réagi? Par définition, on n'en sait rien, elle est morte trop tôt. On ne peut pas savoir, on ne peut pas préjuger de l'attitude qu'elle aurait pu avoir. Parce que le droit de vote pour les femmes, elle n'en parle pas vraiment. De même qu'elle ne parle pas vraiment du droit de vote pour les hommes. Donc, elle, ce qui l'intéresse, c'est le droit à l'instruction pour les femmes. Alors, elle a une phrase qui est absolument extraordinaire. Elle répond à un journaliste qui l'a accusée d'être une bourgeoise qui profite des ouvriers pour se pousser du col, pour se faire valoir. Bon, elle a été attaquée vraiment de manière tout à fait cruelle. Alors, elle répond, elle l'envoie balader et elle lui dit, moi qui suis une femme, je ne pourrais même pas être garde champêtre, dit-elle. Et elle a raison. Alors, elle demande, pour les femmes, le droit à l'instruction et le droit à, une instruction générale, mais aussi une instruction, ce qu'on pourrait dire, une formation professionnelle. Ce n'est pas le terme de l'époque, mais bon, c'est ça, une formation professionnelle, parce qu'elle dit que c'est fondamental que les femmes soient en mesure de pourvoir à leurs besoins et aux besoins des enfants. Elle dit d'autre part que, alors il y a un tableau idyllique, l'ouvrier, des temps modernes, qui reviendra, sa femme sera une compagne et non pas une esclave, il pourra discuter avec elle, sa femme travaillera, donc le foyer aura plus d'argent, elle fait un tableau qu'on peut penser peut-être un peu idyllique, mais des bienfaits de l'instruction et de l'éducation, mais, alors je dis ça là en tant que contemporaine, femme qui vit en 2022, elle maintient malgré tout qu'il y a une distinction de nature entre les hommes et les femmes. Elle dit que les femmes doivent avoir une éducation, une instruction très poussée, mais qu'il faut tenir compte des différences de sexe. Elle est dans un contexte qui, effectivement...
Elle a ses limites aussi, quoi.
Évidemment. Et c'est vrai qu'à l'époque, des idées qui nous, avec lesquelles on est familiarisés, c'est vrai que ce serait un...
C'est vrai qu'elle dit la femme, et la mission de la femme, ce serait d'être le génie inspirateur de l'homme.
Oui.
Donc ça veut dire qu'elle ne voit pas la femme gouverner.
Elle n'en parle pas, mais... Pendant son tour de France, il y a des moments où c'est vrai qu'elle a un moment d'exaltation très fort. Elle se voit, elle prenant la tête de l'Union ouvrière. Alors elle se demande qui serait, alors elle est là, un tel, il est bien, mais donc je le cherche, mais à côté de ça, il a tel défaut, un autre, elle écrit tout ça pour elle, et puis il y a des moments où elle se dit, mais pourquoi pas moi? Parce qu'il y a quand même l'idée qu'elle pourrait très bien se mettre à la tête, c'est l'expression, une expression militaire, s'il n'y a pas de candidat vraiment convaincant, pourquoi pas? De toute façon, c'est une idée, et puis elle n'aura pas le temps, quelques semaines après elle meurt. Alors, je termine avec la question de monsieur.
Ce sera la conclusion? Puisqu'après, nous...
Ah oui, d'accord, la conclusion.
Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission.
Comment elle est accueillie? Alors, c'est très ambivalent. D'un côté, les ouvriers l'admirent, c'est notre mère. Alors là encore, dans un langage qui peut nous paraître un peu surprenant, c'est notre mère, notre sainte, celle qui vraiment donne sa vie pour nous. Il y a une espèce de vénération, c'est une sorte de sainte vierge, laïque, l'admiration. Et puis... quand même, dans la majorité des cas, et d'ailleurs, c'est pas un con, c'est une femme. Alors, dit gentiment, c'est une femme, donc qu'est-ce qu'elle sait de nos conditions de vie, elle qui ne trime pas 15 heures par jour pour rentrer dans un galta, elle connaît pas nos responsabilités, nos problèmes, etc. Et puis, dit plus durement et plus franchement, il n'y a aucune raison qu'une femme vienne nous faire la leçon, comme disent un cotillon, nous n'avons pas l'intention d'écouter ce que nous dit un cotillon. On lui dit parfois, quand elle arrive avec sa brochure sous le bras, on lui dit, c'est tellement bien écrit que ça peut pas être vous, donc c'est pas une femme qui peut avoir écrit ça. Elle en entend dans ce registre. Elle tempête dans son journal. Vous verrez qu'elle en a assez, qu'elle peut plus les supporter, qu'ils sont bornés. Non, elle doit se battre durement contre le préjugé qui veut qu'une femme d'abord n'écrit pas, surtout pas sur ces sujets. Une femme peut écrire des romans, peut écrire des textes pédagogiques, etc. Mais une femme qui s'aventure sur le terrain politique, c'est quand même...
Bien, nous arrivons donc à la fin de cette troisième émission. Adèle, qu'allons-nous
retrouvez-nous donc dans l'épisode 4, où comment, après sa mort et jusqu'à aujourd'hui,
L'œuvre de Flora a donné une impulsion décisive à la poussée des luttes sociales.
Bien, nous rappelons que toutes les émissions de Radio Agora sont en podcast. Pour cela, rendez-vous sur www.radioagora-nanterre.fr. À très bientôt.
Vous êtes à l'écoute de Radio Agora.